Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Voilà, nous allons ouvrir la parole de Dieu ce matin et lire deux textes particulièrement. Nous allons le suivre dans le livre des psaumes d'abord, s'il vous plaît. Livre des psaumes. Alors, nous avons le psaume 107, si vous voulez bien. Le psaume 107, versets 23 à 30, ce passage. Psaume 107, verset 23. Ceux qui étaient descendus sur la mer dans des navires et qui travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme. Il dit et il fit souffler la tempête qui souleva les flots de la mer. Ils montaient vers les cieux et descendaient dans l'abîme. Leur âme était éperdue en face du danger. Saisis de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre, et toute leur habileté était anéantie. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il arrêta la tempête, ramena le calme, et les ondes se turent. Ils se réjouirent de ce qu'elles s'étaient apaisées, et l'Éternel les conduisit au port désiré, qui loue l'Éternel pour sa bonté. Deuxième lecture, nous allons la faire dans l'évangile de Jean, chapitre 6, verset 16. Alors, Jean, chapitre 6, verset 16. Quand le soir fut venu, ses disciples descendirent au bord de la mer. Étant montés dans une barque, ils traversaient la mer pour se rendre à Capernaum. Il faisait déjà nuit et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Il soufflait un grand vent et la mer était agitée. Après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, ils virent Jésus marchant sur la mer et s'approchant de la barque et ils eurent peur. Mais Jésus leur dit « C'est moi ! N'ayez pas peur !» Ils voulaient donc le prendre dans la barque et aussitôt la barque aborda au lieu où ils allaient. Que Dieu nous bénisse à travers cette parole que j'aimerais méditer et elle va à tous, naturellement, chacun. Et je crois qu'il y a là aussi une parole ce matin pour nous, dans ce début d'année, une parole de guérison, une parole de délivrance. Et je me réjouis que le Seigneur m'ait précédé dans ce que nous allons dire à travers le message prophétique que nous avons entendu il y a un instant. Je le dis parce que c'est toujours encourageant pour un prédicateur d'être précédé parfois par une parole. Et c'est toujours aussi très important pour l'Église de savoir que ce n'est pas un arrangement de celui qui prêche, du prédicateur, de dire « Eh bien, il va dire ça parce qu'il faut dire quelque chose aujourd'hui. » Non. Je crois que notre démarche est avant tout une démarche de prière et d'attente et Dieu connaît les besoins. Moi, je ne les connais pas tous et je ne les connais pas. Enfin, pas tous en tous les cas. Et je sais que la parole que Dieu apporte à son peuple, c'est une parole qui est préparée. Lui qui entend vos cris et vos prières, sait ce qu'il faut dire. Sait ce que le prédicateur, en effet, ce qu'il veut mettre dans la bouche du prédicateur pour que nous puissions aller de progrès en progrès et que nous puissions véritablement prendre des victoires. Et les victoires dont il s'agit, ce ne sont pas des victoires tant sur l'extérieur que des victoires sur nous-mêmes. Vous avez remarqué avec moi dans l'une et l'autre des lectures que nous avons faites, il est question de mer, il est question de bateau, de barque, mais aussi il est question de grand vent, de tempête, de flots agités ou de flots déchaînés, de matelots éperdus, de peur et d'angoisse. Et je crois que tout cela, si l'aspect premier, les mers, la mer, les bateaux, à Saint-Nazaire, on est bien placé, et c'est très agréable par temps calme, Mais nous voyons que la deuxième partie, quand il s'agit de vent, de la tempête, et Dieu sait si nous sommes aujourd'hui confrontés avec cette tragédie qui se passe dans une partie de notre monde, on voit ce que ça peut être une grande tempête. Alors à ce moment-là, on mesure toute la faiblesse, la violence des souffrances qui peuvent exister. C'est vrai ici-bas sur cette terre. Et nous voyons que dans la prolongation de notre récit, soudainement dans les deux textes, soudainement, nous voyons qu'il y a un apaisement qui intervient et qui laisse apparaître un port qui est ardemment, qui est désiré profondément, où ces hommes, ces matelots, tant dans le psaume que dans l'évangile de Jean, voient atteindre tout naturellement et simplement. Et ça, c'est extraordinaire parce que nous avons cette confrontation entre la violence avec le fracas des éléments, et puis d'un autre côté, il y a Jésus qui apparaît ou l'intervention de Dieu. Et voilà que ces hommes qui étaient sur le bord de mourir d'angoisse, eh bien, vont rentrer dans ce port. Comme si rien ne s'était passé, en quelque sorte. Il s'est passé des choses, mais ils vont rentrer sans dommage, sans problème majeur. Écoutez bien ces paroles. « Et l'Éternel les conduisit au port désiré. » Ça, c'est la version du psaume. C'est l'Éternel qui les a conduits vers ce port. Ce port, quand on doit être dans la tempête, combien il est désiré, combien on doit véritablement souhaiter toucher la terre ferme. Et puis dans l'évangile de Jean, il est dit qu'aussitôt, quand Jésus est monté dans la barque, qu'aussitôt la barque aborda au lieu où ils allaient. Alors que pendant des heures, ils avaient ramé péniblement et sans pouvoir atteindre. Et là, d'un seul coup, il suffit que Jésus apparaisse. Et puis, voilà, il touche le bord. Moi, je trouve que ce sont des paroles extraordinaires et formidables. Alors, vous avez compris un peu de quoi je vais vous parler ce matin. Je dirais que la vie humaine est une aventure. Et les plus anciens d'entre nous, vous le savez bien, parce que vous avez certainement beaucoup de choses à raconter. La vie humaine est une aventure, donc, où l'on quitte un port pour en atteindre un autre. Depuis le jour où nous avons ouvert les yeux à ce monde et le jour où nous les fermerons, eh bien nous sommes un petit peu, quelque part, là, dans cette situation aux deux extrémités de l'existence. Nous sommes un petit peu dans cette période, c'est la vie ça, c'est l'existence, entre finalement un endroit où on part et un endroit où l'on va. Mais il faut bien le reconnaître, que de tempêtes, que d'ouragans qui viennent briser les esquives que nous sommes. Et parfois, il arrive que nous apprenions de tragiques naufrages avant même d'avoir atteint le but. Et c'est vrai qu'il y a des hommes et des femmes qui ne finissent pas leur vie comme Dieu aurait voulu qu'ils la finissent. C'est vrai qu'il y a des accidents. C'est vrai qu'il y a la maladie qui frappe. C'est vrai qu'il y a des raz-de-marée qui passent. Je dis bien des raz-de-marée sur notre existence. Et nous sommes confrontés ce matin, comme la Bible aime bien nous le présenter, avec des images impressives. Moi, j'aime bien les images de la Bible, les paraboles, parce que c'est à la fois simple, mais c'est merveilleux. Et c'est justement, c'est merveilleux parce que c'est simple. Alors, nous allons prendre cet exemple de ces bateaux, qui représentent la vie d'homme, notre vie en quelque sorte. Et vous allez comprendre que c'est quelque chose qu'un bateau au milieu de l'océan. C'est quelque chose qu'une faible embarcation dans une étendue qui est tellement étrangère à notre nature, parce que nous ne sommes pas des aquatiques, nous sommes des terrestres. Et moi, je ne sais pas si vous avez pris les marins, je ne sais pas si vous arrivez à... Vous avez, oui, vraiment, si vous supportez la mer. Moi, ce n'est pas mon affaire. Il faut leur qu'ils m'y mettent un petit peu. Mais toujours est-il qu'il y en a qui ne sont pas comme ça. Enfin, moi, je ne suis pas tellement très, très rassuré en tous les cas. Et c'est vrai que nous voyons que certains navires quittent le port sans destination précise. Ça, c'est la vie des hommes. Ah, on arrive, on ne sait pas. Il y en a qui, avec le temps, eh bien, se donnent des objectifs beaucoup plus précis. Mais quand on n'a pas d'objectif, pardon, comment naviguer et savoir où on va? Et il y a beaucoup de vies humaines, c'est ça. Hein. Ils ne savent pas naviguer, ils ne savent pas où ils vont. Certains ne sont pas armés pour affronter la haute mer. Je vais parler en termes marines, si vous permettez. Et ils ne sont pas armés. Hein, quand on parle d'armement d'un navire, eh bien, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Il y a tout l'équipement, il y a la nourriture, il y a des provisions, il y a tout ce qu'il faut. Mais dans la vie des hommes, est-ce que nous sommes armés, quelquefois, pour affronter certaines choses? Je dirais, nous qui, en permanence, par le fait même que nous sommes chrétiens, nous sommes dans une église, est-ce que nous sommes suffisamment, est-ce que nous prenons conscience que nous avons besoin d'un armement pour traverser cette vie et aider les autres aussi? Les inadaptés et les mal préparés à l'existence, comme à la traversée d'un océan. D'autres téméraires tentent le danger au risque de tout perdre. Ils se disent, on y va, le Seigneur est avec nous. Il y en a d'autres qui disent, on y va. Mais ils n'ont jamais pris la précaution de savoir si le Seigneur était avec eux. Il y a des coins dans notre globe qui sont terribles. Vous avez peut-être entendu parler des 40e rugissants, hein, ou de ces bateaux qui partaient de nos côtes et qui étaient là, partis dans l'Arctique ou surtout l'Antarctique. On les appelait les caporniers. Ils faisaient la coupure entre l'océan Atlantique et l'océan Pacifique. Et il y avait des mers tellement agitées que les gens désespéraient. Et même aujourd'hui, avec nos navires qui sont bien armés, eh bien, ce n'est pas une petite affaire de passer et de traverser certaines mers. D'autres encore, faute de vent favorable, eh oui, je parle bien de vent favorable, et des vents suffisants, errent et trouvent et tournent en rond, sans jamais avancer réellement. C'est le grand drame de ceux qui partent faire des régates, et qui là, se disent, eh bien, moi je vais gagner la course, et puis à un moment donné, plus de vent. Là, ils sont en train de... d'attendre, de se tourner les pouces en attendant que le vent commence à... Et dans la vie, c'est ça aussi. Il y a des périodes de notre vie où il n'y a plus de vent. Et il y a des périodes dans la vie chrétienne où il n'y a plus le vent de l'esprit, pour des différentes raisons. D'autres échouent sur quelques écueils ou des rochers qu'ils n'ont pas vus à temps. C'est pour ça qu'on met des phares sur les côtes, pour prévenir. Alors, il y a cette pensée, c'est que c'est bien de partir. Mais il faut surtout arriver. Et je suis sûr qu'il y a bien des frères et des sœurs, bien des hommes et des femmes qui sont venus dans cette église, dans cette ville de Saint-Nazaire, dans cette région, qui sont bien partis et qui là sont perdus sur l'océan. Même, ils sont complètement égarés. Parce que ce qui est important, c'est de bien partir, mais c'est aussi d'arriver. Et de bien arriver. Et mes frères, je ne saurais vous exhorter encore de vous dire, vous qui êtes partis, alors, que Dieu vous donne sa grâce et que Dieu nous donne sa grâce à tous. Parce que ça, ça peut arriver aussi même à des pasteurs, même les plus spirituels, de ne pas toujours arriver. Dans nos deux récits nous dépeignent l'histoire d'hommes partis sur les eaux, pour les uns pour y travailler, c'est le cas des psaumes, d'autres pour voyager, d'une manière ou d'une autre. Il y a un point de similitude dans nos deux textes, c'est la totale insécurité où il est question, parce que les mots sont là pour nous le montrer, d'abîme, de nuit, de péril, de détresse. Et avec quelques reculs, on peut le dire, quelle est la vie qui ne s'identifierait pas avec ces mots chargés d'expériences douloureuses? La nuit, nos périls, nos détresses. Dans le psaume, c'est Dieu lui-même qui souverainement secourt providentiellement les naufragés. Vous avez remarqué? Il nous est dit que Dieu les conduisit au port désiré. Et puis dans l'évangile de Jean, les disciples sollicitent, c'est eux qui sollicitent à grands cris que Jésus monte dans leur barque. Et ils savent qu'à partir du moment où Jésus va monter dans leur barque, il va se passer quelque chose. Salutaire réaction qu'ont les disciples en la circonstance à laquelle... beaucoup ne pensent pas de demander à Dieu de venir les aider. Peut-être ça a été notre expérience un temps. C'est peut-être, et je souhaite que ce ne soit plus, mais l'expérience de certains chrétiens qui sont mal engagés, mal dirigés, en l'absence finalement, eh bien là, de secours, qui ne pensent même pas demander à Dieu de les aider. C'est triste. Mais les disciples demandent. Et ils vont avoir une réponse, parce que quand on demande, eh bien le Seigneur répond. C'est là où l'image rejoint la réalité de la venue de Jésus parmi les hommes dans ce monde pour permettre en sa compagnie aux hommes d'atteindre le port d'en face. Et le port d'en face, nous le savons, nous le chantons dans les cantiques. Le port d'en face, c'est celui que nous ne voyons pas encore, mais que parfois nous pressentons. Et c'est très fort pour nous. C'est très fort pour les chrétiens. Et la Bible nous en parle, et nous croyons à la Bible. Nous croyons à la parole de Dieu. Elle nous parle de ce port. Parce que c'est vrai qu'il y aura probablement des tempêtes. Il y en a eu, il y en aura encore. Les tempêtes de la vie. Et j'aime bien cette phrase sibylline, quand il est dit ceci, il voulait le prendre avec eux dans la barque. Ils voulaient. Ils se sont engagés, tous ensemble, et d'un seul cri de leur poitrine a monté ce cri, « Mais Seigneur, sauve-nous, délivre-nous !» Et ça, faut le vouloir. Le dernier, hélas, que le monde appelle à son secours dans la traversée périlleuse, c'est encore le Seigneur. Et c'est pour cela que nous sommes là ce matin. C'est pour cela que nous prenons des forces pour que cet après-midi, dans la réunion d'évangélisation, que dans les jours qui vont venir, dans les réunions d'évangélisation, dans les missions que nous allons engager, eh bien nous disions que, à ces hommes et ces femmes qui sont dans le péril, qui sont dans la nuit autour de nous, nous leur disions que Jésus est près d'eux, que Jésus peut les aider. Et que dans la traversée de la vie, parce que moi, j'ai des entretiens avec les gens qui viennent me voir, eh bien, ils me racontent des histoires terribles, d'océans déchaînés, de mers agitées, toutes sortes de choses où ils sont cassés. Alors on a besoin de leur dire que Jésus est là pour réparer, que Jésus est là pour guérir. Alors que n'a-t-il pas fait Jésus et que ne fait-il pas encore pour tous ceux qui l'invoquent? Cette parole que vous souviendrez, que vous vous souvenez dans le prophète Ésaïe, « Invoque-moi, dit Dieu, et je te répondrai, et je te montrerai des choses que tu ne connais pas. » Est-ce que vous n'êtes pas curieux? N'êtes-vous pas curieux de connaître des choses que vous ne savez pas aujourd'hui? Moi, j'ai envie de les connaître. Seigneur, vraiment, je ne sais pas grand-chose, mais il y a des trésors en réserve. « Invoque-moi, et je te délivrerai. Invoque-moi, et je te répondrai, je te montrerai des choses. » Dans leur détresse, nous dit le psaume, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Vous savez, les hommes perdent beaucoup et nous-mêmes quelquefois, en tant que chrétiens, nous perdons beaucoup en méconnaissant ou en laissant Jésus de côté. J'arrive à un autre point de notre méditation, à la création qui nous est décrite dans le livre de la Genèse. Dieu, si vous me permettez, je vais lui donner un nom au Seigneur. Je vais l'appeler le maître constructeur. Vous voulez bien suivre avec moi cette réflexion? Oui, le maître constructeur. À la création, Dieu, donc le maître constructeur, a fabriqué des vaisseaux humains. Le modèle d'origine, le prototype, vous connaissez son nom, il s'appelle Adam. Et ce prototype était une création excellente. Ben oui. Nous pourrions dire, en reprenant les termes de Marine, c'était un superbe élément capable de traverser l'existence de la Terre, ce pour quoi il avait été fait, et rejoindre sa destination éternelle sans connaître aucun avatar. Quand nous lisons dans le chapitre 2 de la Genèse comment Dieu a créé le ciel et la terre, mais comment il a créé le couronnement de son œuvre en faisant l'homme, eh bien Dieu avait conçu l'homme pour qu'il puisse traverser l'océan de la vie sans avatar. Il y avait une relation entre lui et son créateur. Il vivait dans un jardin, hein, dans le paradis, et toutes sortes de choses. Et ça, c'était synonyme de bonheur. Dieu l'avait conçu pour que vraiment l'homme soit heureux, tout simplement. Chose qu'on ne pouvait pas dire aujourd'hui, hein, puisqu'on parle de tempête. On parle d'ouragan, on parle de raz-de-marée, on parle de toutes sortes de choses, déjà dans notre vie personnelle parfois. La Bible révèle, dans ses premières pages, qu'il y a eu une terrible tempête. Ouais, un souffle diabolique. Un souffle inimaginable dans le monde invisible. Et cette tempête s'est appelée la révolte de Satan. Ou plutôt, la révolte de Lucifer. Il ne nous est pas dit grand-chose, mais le peu qu'il nous est dit, nous savons ce que ça veut dire. Nous en avons encore aujourd'hui les séquelles, nous en portons les stigmates, nous l'avons à l'intérieur et à l'extérieur de nous-mêmes. Et la tentation en Éden, la désobéissance d'Adam a été le premier et fatal écueil sur lequel la créature humaine s'est échouée. Et ça, on n'a pas voulu croire, Dieu nous avait prévenu. Le jour où... Et le diable passe derrière, et il dit, mais pas, tu sais ton Dieu. Tu crois qu'il t'aime? Tu crois que tu peux lui faire confiance? Il te dit ça, c'est pour te garder sous sa main, sous sa domination, sous sa botte. Alors ne veux pas croire. Il vous a dit de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien, de la connaissance du bien et du mal. Mais tout ça, ce sont des mensonges, dit le serpent. Parce que Dieu sait, et il ajoute, que lorsque vous aurez pris de ce fruit, eh bien vous connaisserez le bien et le mal, vous vivrez éternellement, etc. Le menteur. Le rocher était énorme. On se demande comment l'homme a-t-il fait pour ne pas le voir, ce rocher. Alors il s'est brisé. Et le grand rêve de l'espèce humaine, eh bien là, a été au fond de l'eau. Et c'est ce qu'on appelle tout simplement la chute. Et la chute, ça commence par un C comme bien autre chose. La catastrophe. Et tout ça, c'est le péché, le mal, la souffrance. Et puis finalement, c'est la mort. Dans cet ouragan de destruction, l'homme, superbement créé, parce que je veux le rappeler, en est sorti en lambeaux, en est sorti meurtri, en est sorti malade, et il en est sorti mortel. Parce que la suggestion de l'ennemi, vous ne mourrez pas, c'était le plus horrible et le plus monstrueux, le plus éhonté de tous les mensonges. Et finalement, l'homme, à ce moment-là, a vu qu'il allait mourir. On n'était pas fait pour mourir, mes frères et sœurs. On n'était pas fait pour suivre les cortèges funèbres, les cortèges de mort. Non, non. On n'était pas fait pour voir nos pères ou nos enfants mourir sur les champs de bataille. On n'était pas fait pour avoir des cimetières dans notre monde. On n'était pas fait pour connaître tout ce que nous connaissons. Ça n'existait pas dans le plan de Dieu. Ce n'était pas prévu au programme. Et pourtant, nous connaissons ça. Nous avons des amis dans la région de Saumur. Nous avons appris une terrible nouvelle cette semaine. Des amis avec lesquels nous avons cheminé dans l'œuvre de Dieu. Ils ont perdu un fils de 20 ans, d'un cancer. C'est terrible. Et je me dis que ça, c'était pas au programme. Quand on élève un enfant, et de le voir mourir, c'est pas prévu au programme. Depuis Adam, tous les exemplaires faits de chair et de sang ont été frappés de la même anomalie. Cette même anomalie, nous l'avons les uns et les autres. Nous la portons à l'intérieur de nous-mêmes, cette anomalie. Ce n'est pas Dieu qui est responsable. N'allons pas dire que c'est Dieu qui est coupable. Moi, je ne veux pas dire ça. Je ne dirai pas. Mais je sais qui est coupable. C'est le diable. C'est l'adversaire. Et nous avons prêté la main pour devenir nous aussi coupables. Alors, nous sommes maintenant devenus, frères et sœurs, parce qu'un bateau ne peut pas fonctionner sans ça, nous sommes devenus des vaisseaux sans gouvernail. Et vous savez ce que c'est qu'un gouvernail? On va l'expliquer d'ici quelques instants. L'apôtre Paul écrit en lettres de feu ses paroles dans l'épître aux Romains quand il dit ceci: « Comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous, car tous ont péché. » Et on appelle ça d'une manière théologique le péché originel. Et tous sont privés de la gloire de Dieu. Nous n'avons plus de gouvernail. Le problème, il est là. C'est-à-dire que nous n'avons plus la vraie vie, l'éternelle. La vraie, l'éternelle. Parce qu'il y a une vie éternelle, mais dans les tourments, en enfer. Mais nous n'avons plus la vraie vie. Imaginons quelques instants un bateau sans gouvernail. Qu'est-ce qui se passe? Peut-être des gens qui travaillent au chantier naval savent peut-être, pourraient le dire mieux que moi, hein, ça c'est sûr. Alors un bateau sans gouvernail, quelle direction peut-il prendre? Oh, il peut toujours s'élancer, hein, il peut sortir du port peut-être, hein, je ne sais pas. Pour aller où? Sans gouvernail et en dépit des apparences, parce que le gouvernail se trouve en dessous, sous la ligne de flottaison, donc on ne peut pas savoir. S'il est au-dessus, ça ne marcherait pas. Il faut qu'il soit en dessous, naturellement. L'homme possède un corps, oui, comme un bateau possède une coque. On appelle ça, il paraît, la carène. Alors, c'est la spécialité de la région. C'est vrai, c'est extraordinaire. Moi, j'ai monté avec mes petits-enfants l'autre jour, je lui ai dit, on va aller voir avec, sur les chantiers, là, avec papy. Oh là là, mais c'est quelque chose même pour un grand comme moi. C'est extraordinaire ces bateaux. Hein, ils les montent comme des cubes. Ah oui, là il y a eu des beaux bateaux qui ont été fabriqués à Saint-Nazaire. C'est fantastique. L'homme est intelligent pour faire des choses comme ça. Aïe aïe aïe, c'est vrai, c'est enthousiasmant. Et ça, le corps, c'est la vitrine qui lui donne l'illusion de vivre. Eh oui, parce que le bateau c'est pas seulement la coque. Et puis notre vie c'est pas seulement notre corps. Ça nous donne l'illusion de vivre peut-être, mais bien sûr c'est nécessaire. Et quelle place ne faisons-nous pas au corps aujourd'hui, dans notre société matérialiste, n'est-ce pas? À travers la cosmétique, à travers les produits de beauté, les parfums, etc. etc. Alors, remarquez, il faut ce qu'il faut. Hein. Mais je crois que l'homme a complètement renversé les choses, c'est-à-dire qu'il donne la place, une place immense au corps, en oubliant le reste dont je vais vous parler tout à l'heure. Un bateau, la coque, un beau bateau, quand il est fini, quand il est peint, etc., c'est splendide. Mais attendez, c'est pas seulement ça. Hein. Et la vie des hommes, eh bien, on a mis tout sur le corps. Hein, la gymnastique et puis tout le reste. Hein. Pour avoir véritablement soit la forme et puis paraître bien, paraître... Hein, on se fait bronzer aussi par ici. Voilà. Enfin, on se fait bronzer ailleurs aussi. Au centre du bateau, il y a un mât. Enfin, bon, on pourrait l'appeler comme ça. Hein, parce que je sais que maintenant, c'est un petit peu... Mais je pense à la marine à voile. Il y a un mât sur lequel, moi, on déploie des voiles. Et là, on peut parler de fierté, de majesté. Un beau voilier... Un trois-mâts ou un quatre-mâts, comme quelquefois il en arrive dans certaines régates ou certaines compétitions, c'est magnifique, hein, un bateau sur la mer sur un fond de ciel bleu. Enfin, écoutez, restez encore avec moi. Voilà, c'est la fierté et c'est la majesté d'un bâtiment, et l'homme est très fier de cela. L'homme a cette image, et il possède justement cette âme, quand je parle de fierté, d'orgueil, de majesté. L'âme, c'est la voile que l'on a posée sur la coque. Les voiles. Et les voiles, c'est le sentiment, c'est la volonté, c'est l'intelligence. C'est l'animation de la vie. Parce qu'un bateau sans voile, eh ben, il ne va pas aller loin. Hein. Et nous avons mis aussi l'accent, nous les hommes, eh bien, sur, c'est vrai, le corps, mais aussi sur l'âme. L'âme avec ses pensées. L'âme avec son don de création. La belle musique, la belle écriture, hein, tout ce que l'homme a été capable de produire de l'intérieur de lui-même, par sa pensée, parce qu'il a quand même l'image de Dieu quelque part en lui, hein, le beau, le splendide, le magnifique, mais enfin il est capable aussi de faire le pire, à travers son âme aussi. Des voiles déchirées. Une âme, hélas, qui est poussée au gré des vents, qui a servi à toutes les pressions du corps, qui est ballottée sans cesse entre le bien et le mal. Une âme qui n'est jamais libre d'aller dans la bonne direction. Toujours en raison de la même chose, de l'atavisme du péché. Alors il y a, avec l'âme humaine, on est capable de faire des choses. Quand on voit des tableaux, quand on voit des écritures de livres, on se dit, mais c'est formidable cela. Et l'homme part de l'homme quelque part. Enfin, où l'essentiel fait défaut, c'est le gouvernail. Le gouvernail, la boussole remplacée par la girouette. Et dans la vie des hommes, dans la vie humaine, on a remplacé la boussole nécessaire par la girouette. C'est pour ça que quelquefois on dit « il perd la boussole ». Non ? Et qu'est-ce que c'est que cette troisième dimension ? C'est l'esprit. Je vous ai parlé du corps, la coque, la carène. Je vous ai parlé des voiles, qui est l'âme. Maintenant l'esprit. L'esprit qui met la créature, et vous le savez aussi bien que moi, depuis notre conversion, nous le savons, en communion avec son créateur. Puisque Jésus nous dira, les vrais adorateurs, ce sont ceux qui m'adorent en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Il n'est pas dit avec son corps. Il n'est pas dit avec son âme. Il est dit en esprit et en vérité. Je veux bien croire que nous ayons quelquefois, eh bien, quelquefois, que nous avons à servir Dieu avec notre corps. Que nous avons à servir Dieu avec notre âme. Mais la première des choses, pour ne pas tomber dans l'idolâtrie du corps et de l'âme, c'est que ce soit l'esprit qui domine. Parce qu'autrement, excusez-moi, c'est fichu, hein. Et combien d'églises, combien de chrétiens, combien même au niveau de notre monde évangélique, nous avons remplacé l'esprit par l'âme et par le corps. Je suis d'accord pour le corps, je suis d'accord pour l'âme, mais avant tout Jésus nous dit en esprit en vérité. L'impératif absolu de la nouvelle naissance. Et Jésus s'adressera pour ce faire à un homme qui avait peut-être... une carène un petit peu usée, qui avait certainement une âme très développée et une âme certainement d'une grande âme, mais qui ne connaissait pas la dimension de l'esprit, j'ai cité Nicodème. Nicodème était un homme âgé, bon, au niveau du corps, c'est vrai, mais au niveau de l'âme, Il avait certainement de belles voiles parce qu'il enseignait les autres, il parlait de Dieu. C'était un pharisien, mais pas comme les autres. Mais c'était un homme qui avait certainement, eh bien là, quelque chose, une belle âme, Nicodème. Mais il oubliait les nécessaires, il oubliait ce qui était l'essentiel. Jésus lui dit, mais il me faut, mon pauvre ami Nicodème, que tu naisses de nouveau, parce que si tu n'es pas de l'esprit, eh bien, tu ne rentreras pas dans le royaume de Dieu. Comme l'homme ressemble à un bateau égaré sur un océan infini de problèmes, cherchant désespérément son chemin sans gouvernail. Parce que s'il n'y a pas le gouvernail, il ne peut pas y avoir de direction. On peut être religieux, mais on ne sera pas spirituel. Et que si on n'est pas spirituel, on ne peut pas être sauvé. Dieu ne nous a jamais demandé d'être religieux. Il nous a demandé d'être nés de nouveau et de vivre de la vie d'esprit. Quand Jésus est venu dans ce monde désorienté, il s'est présenté comme le sauveur. Et qui dit sauveur parle de perdition. Et au bord de la mer comme nous sommes, il y a des services de sauvetage en mer. Il y a toutes sortes d'équipements nécessaires, que ce soit sur la mer, que ce soit avec les hélicoptères et toutes sortes de choses, des choses qui fonctionnent. Alors il y a des sauveteurs. Mais nous, dans la Bible, nous ne parlons pas d'un sauveteur, nous parlons d'un sauveur. Et là, Jésus est venu pour guérir. Il est venu pour réparer, il est venu pour restaurer, il est venu pour guider toutes ces embarcations humaines détériorées. Et frères et sœurs, je suis sûr, et je ne crains pas de m'avancer, quand nous sommes venus à la conversion, nous sommes venus détériorés. Peut-être que nous le sommes encore maintenant, et nous sommes en réparation. Nous sommes peut-être encore comme dans ces régions où il y a sur le port, eh bien là, toute une industrie de réparation. On voit ces bateaux qui sont sortis de l'eau, qui sont mis sur des grands trépieds, enfin, je ne sais quoi, hein, des cales sèches. Comment on appelle ça?
Des berres.
Des berres, merci. C'est bien, on apprend beaucoup de choses. Hein, et il y a du travail qui est fait à ce moment-là. Quel abîme de misère. Ouais, que de réparation dans l'Église du Seigneur. Qu'est-ce qu'il y a encore du travail à faire? Et je ne parle pas pour vous, je parle aussi pour moi. Jésus s'est occupé de l'homme malheureux. Ouais. Jésus savait que toute cette flottille ou que toute cette flotte humaine n'était pas en état de prendre la mer pour parvenir au port d'en face. C'est pour ça que l'Évangile est annoncé. Et le port d'en face, c'est le ciel, frères et sœurs. Et un Évangile où on ne parle plus de ciel, excusez-moi, mais ce n'est plus l'Évangile. On ne va pas faire rêver les gens en disant « Convertissez-vous à Jésus, vous verrez, vous n'aurez plus de problèmes, difficultés. » Moi, je ne veux pas entendre ces prédicateurs, ils m'énervent. Excusez-moi, je le dis franchement. Qu'est-ce qu'on propose aux gens? Du matérialisme? Mais ils en sont gavés. On leur propose des émotions? Mais qu'est-ce qu'ils ont besoin d'émotions? D'extraordinaire, de surnaturel? Non, non. Ce que les gens ont besoin, c'est d'une foi en Jésus-Christ qui leur apporte la guérison dont ils ont besoin et qui leur donne l'espérance du ciel. C'est ça ce qu'on a besoin. Alors Jésus est venu vers l'homme malheureux. D'ailleurs, tout l'Évangile nous en parle. Certains venaient à lui parce qu'ils avaient été abîmés par des tempêtes successives. Et combien d'hommes dans cette existence, même dans cette église peut-être, ont été abîmés par des tempêtes successives. Que ce soit le labeur, que ce soit l'usure, que ce soit les drames, que ce soit les déchirures. Certains venaient parce qu'ils étaient hors d'usage. Ils existent sans vivre, ou ils existaient sans vivre, par suite de collisions, par suite de faillites, les séparations, les divorces, les injustices. Mes frères et sœurs qui avaient connu ces choses, le Seigneur est venu pour vous amener à relever la tête. Il y a eu des drames de divorce dans l'Église, comme dans beaucoup d'Églises. C'était une chose anormale, qui n'arrivait peut-être pas dans le temps. Mais maintenant, nous sommes obligés de faire avec. Frères et sœurs, le Seigneur est là, il est avec vous, et il va vous relever, il va vous faire du bien. Moi, je le crois. Ne vous renfermez pas dans votre malheur. Il y a de la perspective, il y a de nouvelles expériences avec le Seigneur à faire. Et il va vous redonner votre joie, il va vous donner votre goût de vivre. Alors les gens venaient à lui, justement dans ces faillites. D'autres écrasés par des vagues de fond, parce qu'il existe des vagues de fond. Et les vagues de fond, c'est le chagrin. C'est la dépression, ce sont nos sanglots, que nous n'arrivons pas à réprimer. Parce que la souffrance est trop grande. Eh bien des gens venaient vers Jésus, justement, parce qu'ils avaient été laminés par des lames de fond. Et il est venu pour les guérir. D'autres étaient échoués sur la grève, incapables de continuer la croisière de l'existence, parce qu'ils avaient connu des déceptions. Ils avaient connu de grands découragements de la vie, d'autres et aussi d'autres, aussi vaste que peut-être la souffrance des hommes sur cette terre. Jésus s'est approché d'eux. Enfin, certains venaient vers Jésus parce qu'ils comportaient des vices, V-I-C-E-S, de fabrication. Vous avez remarqué le mot que je viens de citer ? Certains sont venus vers Jésus parce qu'ils comportaient des vices de fabrication. Je dis tout de suite qu'ils ne comportaient pas des vices de création. Attention, c'est d'autres choses. Vice de fabrication et vice de création, c'est autre chose. Ils venaient vers Jésus pour être libérés. Je pense à ceux qui trimballent une hérédité. Je ne suis pas partisan de la doctrine de la démonologie et parler du diable à tout bout de champ. Mais je crois que nous sommes quelquefois héritiers de nos parents, de nos grands-parents. Comprenez bien ce que je dis. Ne serait-ce que quelquefois dans nos états de santé. Dans des choses que nous traînons derrière nous comme des casseroles qui font du bruit. Et malgré peut-être nos intentions de vouloir nous en séparer, eh bien c'est là à l'intérieur de nous-mêmes. Que ce soit l'alcool, que ce soit d'autres choses, que ce soit peut-être nos maux physiques, dont souffrant l'asthme, l'eczéma ou d'autres choses. Et des gens venaient vers Jésus justement pour être délivrés de ces vices, de ces choses qui sont là. Hérédité physique et morale, le péché, la passion, toutes sortes de choses. Mais Jésus n'est jamais rejeté chez Jean, au contraire. Parce que moi je crois qu'à partir du moment où nous venons vers Jésus et que nous désirons la délivrance, même s'il y a des combats et des luttes, mais le Seigneur va nous donner la force de tenir le coup et de repartir dans la bonne direction. Et je me dis, mes frères et mes sœurs qui souffrez de toutes sortes de choses, qui vous battez contre un problème intérieur que ne vous voulez pas avouer, mais venez vers le Seigneur, il va vous délivrer. Vous croyez qu'il va vous refuser de vous tendre la main? Non, il est encore là ce matin. Et il va vous aider. Et il va vous secourir. Et il va vous retirer de l'eau. Il va vous retirer de l'abîme. Parce qu'il veut que vous soyez véritablement son enfant et que vous puissiez véritablement vivre une vie normale. Libéré de l'hérédité. Libéré des lames de fond. Libéré des chagrins insupportables ou insurmontables. Mais le Seigneur est venu pour cela. Moi, je prêche cet évangile-là. Je ne peux en prêcher un autre. Parce que c'est celui-là dont les hommes ont besoin. Et je dirais, c'est celui-là dont les chrétiens et les chrétiennes ont besoin. Même après des années de conversion. Mes frères et sœurs, on commence une nouvelle année, c'est tout symbolique. Mais on va recommencer quelque chose de nouveau. C'est ce que Pascal nous a dit dans la prédication mercredi soir. Quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau. Est-ce que vous le voulez? Ne vous laissez pas accabler par des choses qui sont au fond de votre vie et qui remontent de temps en temps comme ça, comme des égères. Et qui sont quelquefois plus forts que vous. Jésus a guéri et il a réparé tous ceux qui étaient venus à lui par le moyen de la foi. Et il les a rendus propres à la navigation. Voilà une Samaritaine qui échoue auprès d'un puits et qui va avoir une nouvelle vie. Voilà une Marie de Magdala dont la Bible nous dit qu'elle est possédée de sept démons et qui va être la première à la résurrection. Voilà également un gadarénien qui vient complètement déchiqueté par la vie, perclus de démons, toutes sortes de choses sont venues altérer sa raison, sa dignité d'homme. Et nous le voyons qui repart, vêtu dans son bon sens, assis au pied de Jésus. Est-ce que vous croyez que ces redéparts, ils ne sont pas pour vous aussi? Il y a des choses qui vous ont surmonté, des choses qui vous ont dominé, des choses qui vous ont écrasé. Mais le Seigneur vous dit, allez, viens, marche avec moi ce matin. Ouais, moi je vous le dis de sa part. Allez, viens. Tu veux faire maintenant la route avec moi? Tu ne regardes plus derrière toi, mais tu marches. Et on sera là, frères et sœurs, pour vous aider les uns et les autres. On ne comprendra pas tout dans votre vie. On ne comprendra pas tout et on n'essaiera pas tout expliquer. Mais une chose que je sais, c'est que vous avez besoin du Seigneur avant tout. Et vous avez besoin des frères et des sœurs pour vous aider. Ça, c'est important. Et on va s'employer à vous aider autant que nous puissions le faire. On arrête de critiquer. On arrête de dire, eh bien voilà, ah bah oui, mais c'est comme si, c'est comme ça. Non, ça ne va pas avancer le problème, ça. On va aimer. Et quand on aimera, on trouvera toute l'imagination nécessaire pour pouvoir trouver les moyens d'aider. Ouais. La poursuite de la vie, c'est important. Et ça s'entend dans un engagement aussi. Ceux qui hésitent à prendre des engagements pour le Seigneur, bah prenez-le. Vous êtes encombré de choses qui polluent votre vie, qui asphyxient votre respiration spirituelle, morale. Engagez-vous pour le Seigneur. C'est pas moi de le dire. Moi, je n'irai pas chercher en disant à quelqu'un, en disant qu'il faut que maintenant tu t'engages, il faut que tu te fasses baptiser. Moi, c'est pas mon rôle. Jésus le dit. Enfin, Paul le dit. Il n'est pas venu pour baptiser, il est venu pour amener les gens à la conversion. Mais toujours est-il que peut-être il y a un engagement de votre part. Et vous verrez combien les choses vont changer. Il y a un autre élément important de la vie dans la marine, enfin dans le navire. Un autre élément important, c'est l'ancre. Alors on a parlé de la coque, le corps. On a parlé des voiles, l'âme. On a parlé du gouvernail, c'est l'esprit. Et l'ancre, comment il fait pour s'arrêter le bateau? Ah oui, comment il fait? L'ancre, on en voit des grosses, hein. Je ne sais pas, maintenant ça doit être différent, peut-être pour arrêter les bateaux, les fixer. Mais on en voit quelquefois à l'entrée des villes, là, il y a une grande ancre. Hein. C'est tout trouillé, c'est normal. L'ancre est un élément, c'est quelque chose, c'est une solide fixation. On peut peut-être l'exprimer de cette manière. C'est une solide fixation de maintien. Écoutez bien ce que nous vous a dit par rapport à l'ancre. Dans le livre des Hébreux, il nous a dit, « Nous, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance, et cette espérance, nous la possédons comme une... » Pardon ? Oui, une ancre. Une ancre de... Le corps, l'âme, l'esprit. Ah. Alors, dites-moi. Moi, je sais, j'ai la réponse. Qui veut gagner des millions? Pardon? Voilà. C'est pas l'encre du corps. C'est l'encre de l'âme. Nous la possédons comme une encre de l'âme, avec deux adjectifs. Sûr et solide. Les disciples, pour revenir dans l'évangile de Jean, la première frayeur passée, ont imploré Jésus, leur seul espoir de salut dans la tempête. La foi, à cet exemple, est l'ancre par excellence qui nous assure au plus fort de la détresse, au plus fort des raz-de-marée, des tempêtes, des tsunamis, la paix intérieure. Parce que c'est ça ce que nous avons besoin. C'est pas le corps, c'est pas l'esprit, c'est la paix de l'âme. Pour que nous ne bougions pas à l'intérieur de nous-mêmes, il peut y avoir des fracas à l'extérieur, le ciel peut tomber sur la terre. À ce moment-là, si vous avez la paix intérieure, c'est le principal, c'est l'essentiel. Quiconque possède cette foi personnelle en Jésus-Christ est assuré, il ne va pas bouger. Et j'ai vu des frères et des sœurs traverser des moments extrêmement difficiles dans leur existence, mais ils avaient Jésus-Christ comme ancre. Dernier aspect, ça va? C'est pas trop... Vous n'avez pas le mal de mer? Vous me le dites, hein? Que la prochaine fois, on donnera des gilets de sauvetage. On distribuera. Vous dites que votre pasteur, il n'est pas très sérieux. Hein? Non, mais écoutez, je crois qu'il faut dire les choses pour qu'elles soient comprises. Bon, c'est mon tempérament. Mais toujours est-il que ce sont des choses graves, des choses importantes. Mais il faut qu'elles soient sérieuses. Et je pense que ce n'est pas la peine de faire peur aux gens. Il faut... Donnez aux gens d'aimer Jésus et d'aimer sa parole. Parce que Jésus ne manquait pas d'humour non plus. Dernier aspect. Il y avait une coutume dans la marine qui a longtemps été observée. C'est qu'en cas de naufrage, le capitaine faisait évacuer ses équipages et lui seul restait sur son navire jusqu'à disparaître dans l'océan. Je ne sais pas si c'était une bonne coutume, parce qu'il ne devait pas penser à sa femme et à ses enfants. Mais toujours est-il que c'était comme ça. Et un capitaine, hein, seul maître à bord après Dieu, eh bien, il partait dans les flots. Et il laissait naturellement ses marins. Sauf, volontairement, le capitaine sacrifiait sa vie. Je ne sais pas pourquoi, mais toujours est-il que c'était peut-être par fierté, par honneur, c'était le principe de la marine. Mais volontairement, il sacrifiait sa vie. Quelle analogie ne faisons-nous pas avec le sacrifice de Jésus sur la croix? Parce qu'il est le capitaine, il est le général, il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs, il est le souverain sur toutes choses. Et lui, il est resté sur le bateau, en quelque sorte. Lui a volontairement donné sa vie pour le salut, pour que d'autres qui croiraient en lui, eh bien, soient sauvés. Écoutez cette admirable parole de l'apôtre Paul dans Romains chapitre 5 et au verset 6 et 8, « Lorsque nous étions encore sans force, et je dis bien, je paraphrase, empêtrés dans nos péchés, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies, car Dieu prouve son amour envers nous en ce que nous étions. Et bien là, lorsque nous étions encore des pécheurs, et bien il a donné sa vie, il a donné son Fils pour chacun d'entre nous. Alors je voudrais simplement terminer par cette parole, frères et sœurs. Pour vous qui souffrez, pour vous qui vous identifiez avec cette parole, vous dites, mais je suis un pauvre bateau. Je suis une barque qui prend l'eau. Je suis fatigué. Je suis échoué sur un rocher. Mon chagrin, ma peine, mon divorce, mes souffrances, mes enfants, le décès d'un être cher. Vous pouvez vous dire tout cela, et c'est légitime de vous le dire parce que vous l'avez vécu. Je voudrais simplement vous dire qu'il y a un port en face, et vous allez tenir le coup. Parce que c'est le Seigneur qui va vous porter jusqu'au bout. Mais il vous demande ce matin, par le Saint-Esprit, de vous laisser faire. Tant que vous vous débattrez, et ça c'est une des raisons que nous voyons malheureusement de noyade, tant que vous vous débattrez dans votre problème et que vous ne l'abandonnerez pas entre les mains du Seigneur, vous allez couler. Bon, en tous les cas, si vous ne coulez pas, vous allez vous épuiser. Quand on va en mer chauffer les gens, on prend une précaution de les calmer. Enfin, on fait quelque chose en sorte qu'ils se laissent faire. Qu'ils s'abandonnent entre les mains de leur sauveteur. Et nous avons besoin de nous abandonner entre les mains de notre sauveur. Arrêtez, frères et sœurs, je vous le dis. Arrêtez de vous mortifier. Arrêtez de vous culpabiliser. Arrêtez de retourner les problèmes dans tous les sens. Votre âme a été blessée. Vos sentiments ont été piétinés. Toutes sortes de choses. Arrêtez, remettez tout cela entre les mains du Seigneur. Il va vous donner notre vie, il va vous soigner. Il va vous soigner. Alors c'est une invitation à la confiance. Ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Ils voulurent le prendre, nous dit le texte de l'Évangile, dans la barque. Et nous avons besoin de dire ce matin, Seigneur, maintenant j'ai compris. Répare mon corps, répare mon âme, répare surtout mon esprit, que c'est la direction, c'est le gouvernail. Donnons-lui la meilleure part dans notre vie. Laissons-le diriger et il les conduisit au port désiré. Allez, Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos pour vos âmes. Vous avez une place dans l'Église, frères et sœurs, qui avait été malmenée, et Dieu veut vous la faire retrouver. Ne vous transformez pas en petite souris en disant, moi je peux rien faire parce que je suis trop malheureux et tout ça. Non, non, c'est justement avec vous que Dieu va faire des choses extraordinaires, parce qu'il va vous guérir. On y croit, frères et sœurs, et on va bénir le Seigneur maintenant. Et moi je priais peut-être pour ceux et celles qui ont besoin de délivrance, je vous demandais de vous lever dans un instant. Je priais spécialement pour vous. Si vous avez besoin et vous avez ressenti ce message comme une délivrance, le Seigneur va passer et il va vous faire du bien ce matin. On va le demander. Prions quelques instants et je demanderai à ceux et celles qui ont besoin de se lever à leur place, de guérison, de réparation, et Dieu va réparer votre embarcation, celle de votre vie. Amen. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier pour ta bonté et ta fidélité. Merci pour ce message, parce que c'est un message de force, c'est un message de puissance, c'est un message de vie, Seigneur, et tu as compassion de ton peuple. Je suis convaincu, Seigneur, que tu as entendu la prière des frères et des sœurs depuis des mois, depuis des années, Seigneur, ils ont crié à toi. Et je crois, Seigneur, que tu es venu vers eux, que tu viens vers eux, que tu viens encore vers eux, que tu te tiens, Seigneur, auprès d'eux ce matin, pour leur dire, eh bien, crois à ma parole, crois à ma délivrance. Reçois à travers Jésus-Christ, par la foi, la délivrance dont tu as besoin. Seigneur, je te demande de visiter mes frères et mes sœurs. Tu connais, Père éternel, Seigneur, tout ce qui a pu les briser, tout ce qui a pu, Seigneur, les laminer. Des embarcations, Seigneur, où véritablement, ils perçoivent maintenant difficilement le port d'en face, parce qu'ils ont été véritablement malmenés par l'océan de la vie, par les tempêtes de l'existence. Mais Seigneur, dans le nom de Jésus, tu viens vers eux et tu leur tends la main. Et tu leur demandes, Seigneur, ce matin, veux-tu une délivrance? Et la délivrance implique que nous t'abandonnions notre passé, que nous laissions tout cela, Seigneur, des choses trop lourdes à porter, parce que nous savons que si nous voulons sortir de l'océan, de nos misères, de nos souffrances, il faut que nous débarrassions de nos fardeaux. Alors interviens et révèle-toi, et nous te remercions et nous te bénissons. Je demande aux frères et aux sœurs de se lever discrètement maintenant, pendant que les autres ont la tête baissée. Ça nous regarde personnellement de vous lever à votre place. Il n'y a pas de fausse honte. Il n'y a pas de ceci ou cela. Mais je vous demande de vous lever à votre place et nous allons prier pour vous. Nous allons demander à Dieu sa grâce et sa bénédiction pour que Dieu vous donne véritablement ce dont vous avez besoin. Il est venu pour vous guérir. N'hésitez pas. Quelle que soit votre vie, quelles que soient vos difficultés, osez vous lever et le Seigneur va vous bénir. C'est une démarche de foi. Nous allons prier quelques instants.
Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier pour nos frères et nos sœurs. Tu vois, Seigneur, ceux qui en cet instant se lèvent, parce qu'ils ont entendu ta parole, ils pensent que cette parole est pour eux. La parole de leur vie, la parole de leur histoire, la parole de leur passé. Oui, Seigneur, ils sont rentrés dans cette vie, Seigneur, comme ces embarcations, Seigneur, s'élançant avec beaucoup d'insouciance, beaucoup d'innocence, Seigneur, dans cette aventure, que ce soit l'aventure du mariage, que ce soit l'aventure d'autre chose, et qui, à un moment ou à un autre, ont rencontré des rochers, des écueils, des montagnes. Et aujourd'hui, Seigneur, nous voyons nos frères et nos sœurs qui sont en bas de cette montagne, de ces rochers, Seigneur, et qui regardent, c'est vrai, vers le haut, toujours vers le haut, mais qui ne sont plus capables, Père éternel, de gravir. Et de se retrouver maintenant, Seigneur, là où tu voudrais qu'ils soient. Seigneur, avec tous les sentiments de compassion que tu mets dans nos cœurs à chacun. Nous te prions pour tel frère et telle sœur, oui, Seigneur, qui se lève maintenant. Ô Jésus, fais leur grâce. Seigneur, si nous ne pouvons pas les comprendre, parce que nous n'y sommes pas passés, en tous les cas, tu veux leur dire que ce matin, tu les comprends parfaitement. Et non seulement, Seigneur, tu leur dis que tu les comprends, mais tu leur dis que tu les aimes. Et il n'y a pas d'autre chose que c'est formidable de savoir que nous sommes aimés alors que nous croyons que nous ne sommes plus être aptes à être aimés. Seigneur, dans le nom de Jésus, maintenant fais ton œuvre. Tous les blessés du chemin, tous ceux qui ont été meurtris, tous ceux dont les embarcations ont été percées, trouées, Seigneur, dans le nom de Jésus, endommagés. Seigneur, tu es le grand réparateur. Oui, Seigneur, en effet, Père éternel, notre vie a été marquée par le péché, d'une manière ou d'une autre. Et le diable s'est servi du péché pour nous détruire et pour nous donner la mort. Mais nous sommes des hommes qui voulons vivre. Et aujourd'hui, nous sommes face à l'Évangile. Et cet Évangile, Seigneur, nous promet la vie et nous ne voulons pas passer à côté. Alors maintenant, bénis mes frères et mes sœurs. Au nom de Jésus, passe par le Saint-Esprit dans les rangs. Passe maintenant, Seigneur, au milieu de ton peuple, dans cette Église. Révèle-toi et manifeste-toi, Seigneur. Et nous prions à toi, nous invoquons ton nom, Seigneur. Et nous te prions que le souffle du Saint-Esprit, Seigneur, visite nos frères et nos sœurs. Et qu'ainsi, Seigneur, ils reçoivent le bienfait de ta présence. Au nom de Jésus et pour la gloire de ton nom. Alléluia, bénissez. Bénissez le Seigneur quelques instants. Frères et sœurs, n'hésitez pas. Bénissez le Seigneur. Vous dites comme David, je m'écris loué soit l'Éternel et je suis délivré de tous mes ennemis. Bénissez le Seigneur, il passe au milieu de vous, il connaît vos peines et vos chagrins. Il est en train de recueillir toutes ces choses et il veut véritablement vous délivrer et vous apporter sa grâce. Il le sait et il vous dit qu'il vous aime. Alléluia, gloire à toi. Bénissez le Seigneur. Allez-y frères et sœurs, je vous laisse la place maintenant de le bénir. Ceux qui sont debout, ceux qui sont...